magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du salon Livre Paris, qui se tient actuellement dans la capitale française et qui réunit plus de 3000 auteurs d'Europe et d'ailleurs, je vous propose aujourd'hui un entretien avec Orhan Pamuk. Écrivain turc le plus lu au monde, il est traduit dans une soixantaine de langues, c'est aussi un homme connu pour ses engagements politiques. À ce titre, avec son œuvre composée de livres majeurs comme « Mon nom est rouge »,« Neige », »,« Le musée de l'innocence », il a été couronné par le prix Nobel de littérature en 2006. Et après « Cette chose en moi », l'an passé, vaste saga stambouliote, Orhan Pamuk revient avec un nouveau roman, plus bref, un conte initiatique, littéraire, mais très contemporain, traduit en français sous le titre « La femme aux cheveux roux ». À cette occasion, chez son éditeur français Gallimard, Orhan Pamuk s'est livré à notre micro « Rencontre ». Bonjour Orhan Pamuk.
Bonjour.
Vous êtes en France à l'occasion de la publication de votre roman, mais aussi pour participer à Livre Paris, qui se déroule actuellement, la grande manifestation littéraire qui réunit les écrivains du monde entier, avec cette année plus particulièrement une édition consacrée aux littératures de l'Europe. Rappelons que la Turquie, votre pays, ne fait pas partie de l'Union européenne. Quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que vous souhaiteriez que la Turquie entre dans cette communauté?
Eh bien, j'ai consacré beaucoup de temps à cette question, en particulier entre 2003 et 2009. Je me suis porté volontaire pour soutenir la candidature de la Turquie pour l'Union européenne. Et je voulais faire la propagande, la promotion de la Turquie. À l'époque, mon argument était le suivant. Une Turquie partie prenante de l'Union européenne serait un pays musulman ami. Ce serait également un argument recevable pour le reste du monde musulman, puisque ça pourrait servir de modèle. Ce serait un bon modèle pour ces pays-là.
Mais
pour l'Union européenne, en fait, elle a été fondée sur cette amitié entre la France et l'Allemagne qui s'était entretuée il y a des années. Donc la Turquie et l'Europe pouvaient aussi avoir cette relation. Mon autre argument, c'était de dire que l'Union européenne est fondée sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité. Et si vous vous souciez réellement de fraternité, la Turquie, c'est aussi votre voisin et c'est votre fraternité.
People think I'm naive enough to believe all
this. Les gens pensaient que j'étais naïf de croire en tout cela. Ça n'a pas fonctionné.
Not all of it, but partly Turkey did not do its
en partie parce que la Turquie n'a pas fait son travail sur les droits humains et sur la liberté d'expression. Et puis il y avait Sarkozy qui était opposé d'une manière assez subtile, discrète, et qui repoussait notre candidature. Aujourd'hui, je ne peux m'en prendre à personne en particulier. Mais j'ai là l'occasion de dire que j'espère voir un jour la Turquie partie prenante de l'Union européenne. Maintenant, cela semble très loin, mais j'y crois encore.
Mais vous diriez, Orhan Pamuk, qu'il existe une Turquie qui appartient à l'Europe littéraire?
Oui, bien sûr, et pas uniquement l'Europe d'ailleurs, c'est aussi très français, tout le système d'éducation turque, cette admiration que nous avons pour la littérature, pour le monde littéraire. Une grande partie de la culture moderne turque, son système culturel est copié sur le système français. C'est pour cela que ça nous brise vraiment le cœur quand les Français disent « ne venez pas, ne nous rejoignez pas » parce qu'on a envie de vous imiter, surtout les Français.
Nous allons parler maintenant, Orhan Pamuk, de ce nouveau roman « La femme aux cheveux roux » qui est un récit d'apprentissage, une réflexion sur la littérature à travers deux mythes, celui d'Oedipe, héros grec, et celui de Rostam, issu d'une légende persane, et nous verrons avec vous ce qui les lie et ce qui les sépare. C'est un roman social également sur la transformation de la Turquie et l'expansion phénoménale d'Istanbul qui en 4 décennies a pris une ampleur considérable. Et c'est ce qu'on voit donc dans ce récit qui prend racine en 1987 où l'on fait la connaissance de Sem, votre protagoniste. Il a 17 ans et pour payer ses études, il part un mois à la campagne, aider un puisatier à construire un puits, donc, pour accéder à l'eau qui est une ressource vitale. Avant que vous nous racontiez comment ce début a germé en vous, je me disais finalement, Orhan Pamuk, que écrire et construire un puits, c'était assez similaire. On creuse la terre, on creuse des histoires, on cherche la vérité, on cherche de l'eau, et puis quand on réussit, il y a un miracle de la vie et des mots. Qu'en pensez-vous?
I am not the well digger in
je ne suis pas le puisatier.
I am like this boy, lost
mais je ressemble
in between
à ce garçon
old stories,
perdu entre les histoires anciennes, les pères
where
puissants,
the fathers are strong,
ou en tout cas une culture dans laquelle les pères sont en position de force, et le désir de liberté
wants
de ce garçon,
individual.
L'individualité qu'il a envie
this boy's
d'atteindre,
longing for individuality,
le désir d'individualité
and
de ce jeune
in
homme
my heart,
est une contradiction profonde avec cette puissance du père. En tout cas, c'est vraiment une contradiction que je ressens comme quelque chose de profond dans mon cœur. J'étais jaloux des amis qui avaient des pères très attentifs et pleins de bienveillance, mais j'étais aussi très triste et très désolée de voir que la plupart de mes amis avaient aussi des pères qui les dominaient, qui les écrasaient. Moi, j'ai la chance d'avoir un père avec qui on a une relation très amicale. Et il nous a toujours dit qu'on pouvait être ce qu'on voulait et qu'on était intelligent, mais les pères de mes amis n'étaient pas comme ça.
Donc pour vous, Orhan Pamuk, écrire et creuser la terre, c'est différent? Il me semblait pourtant qu'il y avait un travail d'archéologie, d'architecte même.
I am patient like an archaeologue.
J'ai la patience d'un archéologue. Je n'aime pas aller trop vite.
Everyone says novels are stories.
Tout le monde dit toujours un roman c'est une histoire. C'est vrai pour moi aussi, mais au début, j'ai d'abord toujours une sorte de panorama social. Ensuite, je cherche dans ce panorama une histoire qui va éclairer l'ensemble du tableau.
I never write, oh, what a beautiful story.
Je ne
me
dis jamais, ah, voilà une superbe histoire, si je la racontais. Je rassemble, je collectionne les histoires, je fais des entretiens, mais la vision générale, c'est toujours quelque chose sur lequel je réfléchis.
Il y a un côté artisanal, donc, dans votre écriture.
Yes, I believe in craftsmanship.
Oui, this is beaucoup exactly dans l'artisanat.
And when they say, hey, you're
c'est exactement
really
comme ça qu'on dit.
Oh, you're such an artist. Well, actually,
quand
I'm
les gens me disent
you know, 50,
que je suis un formidable artiste, je dis toujours que je suis un artisan. 90% de mon travail, c'est retourner les phrases, réfléchir à la manière de représenter les choses au tableau général. Si je suis possédé par la poésie,
and arrange it in such a way that
je crée un cadre et l'arrange de la manière qui suit pour que ça fonctionne aussi d'un point de vue dramatique.
Et donc on en arrive en effet à ce thème principal du roman, la question père-fils. Ici, rappelons-le, Sem n'a pas vraiment de père puisque celui-ci a abandonné le foyer conjugal et il est en quête, cet adolescent, d'une image paternelle qu'il va trouver en son maître puisatier, un homme qui est à la fois autoritaire, mais bienveillant. Et je me demandais, Orhan Pamuk, est-ce qu'un bon père peut être aussi une personne avec qui on n'a pas de lien biologique ou sanguin?
Yes, I am maybe arguing in
oui,
this book.
En fait, d'ailleurs, ce livre est sans doute un argumentaire dans ce sens. Ce que
the rest
je dis,
of the non-European world,
c'est que le monde non-européen, par exemple la Chine,
in other countries,
ou d'autres pays,
for fathers that beat them,
ce sont des, c'est un monde dans lequel on soutient le rôle du père qui vous écrase, qui vous frappe et qui réprime la liberté d'expression et continue à voter pour ces figures paternelles. La raison, c'est souvent la croissance économique, le désir d'une croissance économique. Parfois, la nécessité de combattre un ennemi.
Ou
la continuité du trône, autrefois. L'armée, mais la cruauté de l'État
always in the cruelty of the state in the story Rustam and
Sohrab. Dans l'histoire notamment de Rustam et Sohrab, par exemple, c'est une cruauté d'État qui est légale. C'est une apologie de ce type d'État qui exerce une forme de cruauté, cette histoire-là. Alors que Oedipe Roi est une apologie de l'individualisme. Les deux fins de l'histoire sont différentes. Et ce qu'elles impliquent, surtout, ces deux histoires, est complètement différent.
Puisque vous l'évoquez, Orhan Pamuk, en effet, arrivons-en à cette question des mythes, puisque Sem est très intéressé dans un premier temps par Oedipe, ce héros grec qui, je le rappelle, a été victime d'une prophétie selon laquelle les dieux l'avaient condamné à tuer son père et à épouser sa mère. Et en fuyant son destin, il a été rattrapé. Et en effet, il a accompli la prédiction. Ça, c'est la partie occidentale, on va dire, que vous abordez dans un premier lieu. On va parler dans un deuxième temps du Livre des Rois. Mais pour rester sur la question d'Oedipe, est-ce que vous aussi, c'était un texte qui vous avait marqué quand vous l'aviez découvert et lu ?
I don't know what powerful means.
Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, marquer, mais j'ai lu Oedipe à 16 ans, j'allais à un lycée américain à Istanbul, et c'était un des textes fondateurs de la culture occidentale pour mes enseignants, pour ce cursus. Mais quand je lisais ce livre, le problème pour moi, c'est que quand je lisais les scènes, en tout cas, il y avait cette idée, même s'il n'y avait pas la scène, l'idée que Oedipe couche avec sa mère, c'était quelque chose que je ne pouvais pas visualiser, que je ne pouvais pas imaginer, ça me faisait du mal. C'est un sentiment qui m'est resté et qui a fait que ce livre est resté inoubliable, et à mon avis, pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Cette idée-là, elle est inoubliable. Et c'est pour ça que 20 ans plus tard, comme beaucoup de Turcs, je ne connaissais pas l'histoire de Rustam et Sohrab. Je lisais mon nom est rouge, je lisais pour mon nom est rouge, j'étais en train de l'écrire. Et j'ai cru découvrir pour la première fois qu'en fait c'était Oedipe à l'envers, cette histoire. Et donc j'ai tourné autour de ce livre d'abord comme une approche en fait de littérature comparée finalement. Et au final, le roi tue son fils pour la continuité du trône parce que le fils est fou, en tout cas ne convient pas. Et en pleurant, nous légitimons sa cruauté puisqu'un pays doit survivre et qu'il faut faire ce qu'il faut aujourd'hui. On parle de croissance économique, de nécessité économique, etc. Donc c'est quelque chose qui me met en colère. Je suis en colère contre ces Turcs qui disent que Nazmi, ce poète turc célèbre, était très bien, mais était communiste, donc il faut le pendre et pleurer sur sa tombe. Ce genre de rhétorique qui donne raison à l'État quand il est cruel me met en colère. Et nous avons toujours ce type de discours dans la partie du monde d'où je viens.
Pour nos auditeurs, je vais expliquer un peu que, en effet, comme vous, d'ailleurs, Orhan Pamuk, que votre protagoniste Sem lit d'abord Oedipe et ensuite découvre le Livre des Rois, cette légende iranienne où il y a cette histoire à l'envers, où là, cette fois, c'est un père guerrier qui tue son fils. Et de fait, on a l'impression que ce sont deux visions du monde différente, une vision occidentale et une vision orientale. Mais l'une et l'autre, ce sont des visions tragiques dans lesquelles vous posez la question du destin. Et l'autre question, c'est le sacrifice d'un individu face à la raison d'État.
Yes, in fact, there is no end to these discussions.
Oui, en fait, c'est un débat qui n'a pas de fin, mais toute la beauté de ce débat, c'est que si on le traite par la littérature, on peut tourner autour et jouer avec à l'infini.
Autoritarian and totalitarian, these discussions are so
à moins d'être autoritaire et totalitaire, c'est un débat qui est très amusant. Je pense que nous pourrions faire tout un séminaire avec des étudiants sur ce sujet. Mais par contre, les partisans des régimes autoritaires, les fanatiques, tuent ce dialogue dans l'œuvre. Ce sont des choses qu'on peut avoir, des discussions qu'on peut avoir au téléphone avec un numéro vert de théologien, mais pas en public.
Heureusement que la littérature existe alors et que la fiction permet de poser ces questions sans avoir forcément de réponse.
Yes, oui, but there are no answers.
La fiction, effectivement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Il y a des points de vue, des positions qui sous-entendent certains types de réponses. Mais la fiction vous offre ces questions sous forme de situation humaine. Vous vous attachez aux personnages qui sont placés dans ces situations. Et c'est là où vous développez une tolérance, où vous réalisez qu'il n'y a pas le bon, le méchant, et que vous commencez à vous attacher à eux. C'est ça qui est beau dans la littérature. C'est que toutes les idées qui ne sont pas acceptables peuvent être comprises, compréhensibles à travers des personnages humains. J'ai écrit Neige non parce que j'avais la moindre sympathie pour le terrorisme islamique ou pour les islamistes, mais parce que je voulais essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce personnage se comporte avec autant de cruauté. Dans mes romans, j'explique les choses de façon réaliste, parce qu'il a fait ci, qu'il lui est arrivé ça, parce que s'il s'est passé ci en Allemagne. Mais ici, dans le cas de ce roman-ci, le dernier, j'explique tout à travers de la mythologie, et c'est pour ça que c'est un texte plus court.
Bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de l'écrivain turc Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, avec qui nous parlons de ce nouveau roman La femme aux cheveux roux. Et il est donc temps de parler de cette femme parce qu'elle joue un rôle prépondérant dans le destin de Sem, votre narrateur. Il se trouve que c'est la première femme avec qui il va faire l'amour à 17 ans et il est attiré par elle, non seulement parce qu'elle est belle, parce que c'est une actrice, mais parce qu'elle est rousse. Et c'est une couleur de cheveux qui n'est pas anodine pour vous, Orhan Pamuk, de la même façon que c'est une couleur de cheveux qui n'est pas anodine en Turquie.
Okay, I'll just start with the naïve or childish part.
Réponse peut-être d'abord naïve et enfantine. Dans ma propre adolescence, les femmes rouses étaient statistiquement représentées une possibilité peut-être de relations sexuelles plus élevée qu'avec les personnes qui ne se teignent pas les cheveux en rouge. Je vais m'expliquer. Pour les Européens, de Shakespeare à Sylvia Plath, les femmes aux cheveux roux sont des personnages en colère, sont des personnages incontrôlables, mystérieux, puissants. Ce sont des femmes qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est plus ou moins la même chose en Turquie, sauf que nous n'avons pas de rousse naturelle. Donc ce sont des femmes qui se teignent les cheveux. Et nous voyons les femmes qui se teignent les cheveux aussi comme des femme incontrôlable, en particulier pour les hommes musulmans. C'est quelque chose d'assez effrayant. Donc c'est cette position-là, ce choix de se teindre les les cheveux en rouge, c'est une façon d'affirmer en public sa différence pour ces femmes.
Actresses, women
des actrices,
with
des femmes de caractère, des femmes qui ont envie de mettre en évidence cette différence. En Turquie, en public, en tout cas, le sens de ces cheveux roux est légèrement différent. Et donc, le sens de l'histoire s'appuie là-dessus.
Et donc, cette femme, pour vous, du choix de sa couleur de cheveux, est-ce qu'elle incarne la résistance, la rébellion, le refus du pouvoir politique?
That I would say exaggeration.
Ce serait une exagération, selon moi. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons 14 journaux à Istanbul, dont 12 sont contrôlés par le gouvernement. Les deux autres essaient de faire un travail d'opposition, mais doucement, parce que s'ils en font trop, ils finissent en prison. Et c'est le seul type d'opposition dont nous disposons. Et une de leurs formes d'opposition, c'est d'écrire sur la manière dont ce gouvernement ne fait rien pour libérer les femmes et les opprime, parce qu'ils ne peuvent pas critiquer directement le gouvernement sur les autres sujets.
En tout cas, dans ce roman, ce qu'on voit Orhan Pamuk, c'est trois femmes qui sont assez différentes. Il y a la maman de Sem, qui est une femme traditionnelle et qui malheureusement va être quittée par son époux. Il y a cette actrice qui, elle, vit sa vie comme elle l'entend. Et puis, il y a la femme de Sem.
Almost invisible wife.
Néanmoins, c'est une jeune femme très moderne, qui travaille, très tolérante, parce que le drame de ce couple, c'est qu'ils n'auront pas d'enfants. Elle aurait sans doute aimé être mère. Est-ce que ces trois femmes, pour vous, Orhan Pamuk, sont un panel de la société turque?
Yes, I never thought about this way.
Oui,
yes.
Je n'ai jamais pensé de cette façon-là.
Is the normal pro-European and westernized woman.
Mais
the
il y a la femme pro-occidentale, moderne, il y a une autre femme qui est plus traditionnelle, la femme aux cheveux roux et la femme courageuse du livre.
Of the book is liking her more
peut-être
than
que le fond du livre, c'est woman, qu'on va l'aimer davantage que ces
yes,
autres femmes, justement, qu'on va s'attacher davantage à elle, mais toutes les femmes de ce livre représentent effectivement une part de la Turquie. Mais quand j'ai écrit ce livre, le cliché en Occident est de dire qu'il y avait des hommes autoritaires, traditionnels, religieux qui écrasaient les femmes dans la région du monde d'où je viens. Et je me suis fait un devoir de ne pas écrire des personnages de femmes écrasées, mais des personnages de femmes qui résistent. Des personnages de femmes qui racontent des histoires, qui se moquent de leur mari, qui inventent des situations, qui ont leur propre vision des choses, qui est complètement différente. C'est pourquoi, au final, je suis les histoires traditionnelles de Deep et de Rustam et Tchoukrab, je les utilise. Ce sont des histoires dans lesquelles les femmes n'ont pas de voix, mais moi, à la fin de mon roman, c'est pour ça que j'ai décidé de donner une voix à la femme russe. Bien sûr, on ne va pas parler de la fin, mais en tout cas, la femme, à la fin du livre, prend le micro à un moment et a une voix, et c'est quelque chose qui me plaît.
Et en effet, la dernière partie de votre roman, Orhan Pamuk, est racontée dans la voix de cette actrice. Et c'est aussi parce que la place de la femme, vous venez de le dire, est importante, mais aussi la place des arts. Parce que par exemple, Sem, il travaille adolescent dans une librairie, il a vraiment un tropisme pour la littérature, dont la littérature française, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Il rêve d'être écrivain, il ne pourra pas accomplir ce rêve, mais son fils deviendra poète. Il y a une transmission de la littérature, de la même façon qu'il y a une transmission dans votre famille de la littérature. Vous n'êtes pas devenu écrivain par hasard, Orhan Pamuk.
Yes, that it is that the
oui,
other way around with Jem and me.
My father wanted to be a writer. Mon père I voulait être écrivain et c'est moi qui ai fini par le devenir.
So I have come across so many people who wanted to be writer and failed.
Donc j'ai rencontré tellement de gens qui voulaient être écrivains et qui ont échoué. Moi, en fait, je ne voulais pas devenir écrivain, je voulais devenir peintre et j'ai fini par devenir écrivain.
Est-ce que ça veut dire que c'était votre destin, Orhan Pamuk, et que vous n'avez pas pu échapper à ce destin d'écrivain?
I don't believe in destiny.
Je ne crois pas au destin.
We say destiny.
Ça n'existe pas, le destin. Nous utilisons ce mot pour tous les problèmes que nous n'arrivons pas à nous confronter. Tout est humain.
Strong religious beliefs. And I'm happy to say what I
quand
say
je rencontre
in Turkey
des gens dont les croyances religieuses sont très fortes,
ask this in Turkey,
on me pose souvent la question, rarement en Turquie
saying,
en fait, parce que ça va de soi.
Kind of a Muslim. But since internationally,
mais à l'international, on me pose souvent
I go,
la question.
When I go back to Turkey, you know, you're asking me about religion I say in Turkey.
En Turquie, est-ce qu'on vous pose des questions sur la religion?
And they always ask me,
et je dis toujours, mais non, en fait, on pose toujours la question beaucoup plus ailleurs. Et en fait, c'est en Europe qu'on me demande quelle est votre religion, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Your religion, and I tell to
et
European
je réponds toujours aux Européens,
like
au
you.
Public européen,
madame,
aux gens comme vous.
Sir, my religion is literature.
Monsieur,
and right
madame,
after
ma religion,
this,
c'est la littérature. Et en général, le public
Turkey.
Applaudit à ce moment-là. Et quand je raconte cette histoire en Turquie, le public applaudit.
But this is a good secular audience, of course. Yeah.
Bien sûr, quand il s'agit d'un public laïque.
Ce qui est intéressant avec ce que vous venez de dire, Orhan Pamuk, c'est que même quand vous écrivez de la fiction, Orhan Pamuk, le public vous parle politique, vous parle religion, comme si vous étiez aussi le porte-parole d'une voix, d'une pensée intellectuelle de référence.
Yeah, yeah, in Turkey, fiction writer
oui,
is a, by
en
nature,
Turquie,
a political person.
Un auteur de fiction est par nature un personnage
politics,
politique. Et si vous vous tenez à distance de la politique, on vous prend pour lâche. C'est un tropisme qui existe aussi en Turquie, parce que tout est question de politique quand on est un auteur turc. Et même quand on dit des choses gentilles, elles vont être interprétées de travers. Tout le monde est politique. Et pas seulement moi, c'est le cas de tous les écrivains turcs. Littéralement, dans la région du monde d'où je viens, tout ce qu'on dit finit par être politique. Je ne veux pas être un politicien parce que personne en qui personne ne croirait, et moi non plus d'ailleurs.
Est-ce que c'est une façon de dire, Orhan Pamuk, que c'est un peu lourd pour vous d'être toujours rattrapé par l'actualité politique qu'on vous demande de commenter et que vous aimeriez être un écrivain dans votre chambre, dans votre bureau,
yes,
à écrire des fictions?
I hate actuality politics. Very well put.
Je déteste l'actualité politique. Vous avez très bien résumé la situation.
Yes. And every time you do an interview, they ask an actuality politique.
À chaque fois qu'on fait une interview, on me pose des questions sur l'actualité politique, on me demande une actualité politique. Alors que ce livre essaie d'aborder les problèmes politiques, mais en esquivant totalement en dehors de l'actualité. Qu'est-ce qui dure? C'est ce genre de raisonnement, en fait, ce qui va durer des années. C'est Rustam et Sokram, c'est ce genre d'histoire, c'est ça qu'il faut défendre. Cet enjeu-là autour de l'individualité de l'État, ça va durer des années raconté sous cette forme.
Et ça s'est, j'imagine, empiré depuis que vous êtes prix Nobel de littérature.
Yes, that made me a bigger target.
Oui, ça a fait de moi une cible plus importante. Mais ça m'a aussi donné une forme de protection. Je ne me plains jamais de mon prix Nobel. Ça a fait de moi une cible plus visible, mais ça m'a aussi donné beaucoup de nouveaux lecteurs.
That it made me write more
et ça
and
m'a
more
permis
and more.
D'écrire
after
de plus en plus.
I'm working much more
depuis
hard.
Le prix Nobel, je travaille encore
more
plus
joy.
Dur, mais aussi avec beaucoup plus de plaisir.
I don't have an anxiety. I
je n'ai pas
Nobel
d'angoisse.
Prize. What do I do next? I'm working hard.
Je travaille dur, tout simplement. Je ne me demande pas ce que je vais faire après
so
le prix Nobel. J'ai juste beaucoup de chance d'écrire. Je suis traduit en 62 langues. Quand j'écris un roman, en 2 ans, c'est traduit en 45 langues.
I have nothing to complain about.
Je n'ai vraiment
a happy writer.
Aucun
I'm
sujet pour me plaindre. Je suis un écrivain heureux. La seule chose qui me peine, c'est le manque de démocratie en Turquie et la mort de la démocratie en Turquie. Ce n'est pas une mort totale. Nous avons encore des élections. Malheureusement, les gens continuent à voter pour ce parti. Qu'est-ce que je peux dire?
Vous vous exprimez dans vos romans et c'est le plus important, Orhan Pamuk.
Yeah, not real money. I do that,
oui,
and I also
oui.
say, yeah, I wrote
je
this novel because
et j'explique aussi que j'ai écrit tel
and
tel roman parce que mon pays est en train de virer autoritaire. Et je dis ça aussi en Turquie.
Merci beaucoup, Orhan Pamuk. Je rappelle donc le titre de ce nouveau roman traduit en français, La femme aux cheveux roux, traduit du turc par Valérie Gay Askoy. Et c'est publié chez Gallimard. Merci à Marguerite Capel qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien et à Médard Chablaoui qui l'a enregistré.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.